Bienvenue à l'Église évangélique de Mérin. Merci d'être là pour soutenir les amis qui vont se faire baptiser. Mais avant de commencer notre culte, nous avons une annonce concernant les annonces. Donc, j'aimerais inviter Michel à prendre la parole et ce sera suivi par les annonces. Notre Dieu et notre Père céleste, nous voilà réunis devant toi. Nous sommes conscients que c'est vraiment un grand privilège de pouvoir être là librement pour t'écouter, pour essayer de mieux comprendre qui tu es, te connaître. Nous te confions les 7 personnes qui vont se faire baptiser en te priant de nous parler à travers leur témoignage de vie, de vécu avec toi. Nous plaçons l'ensemble de ce culte sous ton regard et nous invoquons ton secours, ta présence, ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue pour ce culte de baptême. Juste pour vous expliquer le déroulement du culte, nous allons écouter de lecture de la Bible, nous allons chanter, conduit par nos musiciens. Il va avoir les témoignages des personnes qui se font baptiser aujourd'hui. Nous allons écouter avant cela le pourquoi de pratiquer le baptême de cette manière. Donc les baptisés vont témoigner. Ils ont aussi choisi des chants que nous allons chanter entre les témoignages, avant et entre les témoignages, et en conclusion des baptêmes. Les 7 vont témoigner tour de rôle, entrecoupés donc de ces chants. Et puis après, les 7 vont passer, pas tous ensemble, mais les uns après les autres, dans le baptistère. Et là, on a choisi un verset de la Bible qu'on va leur lire. Il y a aussi quelque chose qu'on veut les offrir, mais ça, ils vont découvrir après le culte plutôt que dans le baptistère. Et puis, nous allons conclure un temps de prière libre. Il y aura une méditation biblique concernant le baptême de Jésus. Nous allons partager le repas du Seigneur ensemble, ceux et celles qui désirent le faire, et nous conclurons notre culte avec une bénédiction pour nous envoyer dans nos lieux respectifs. Je lis dans l'Évangile de Marc, premier chapitre concernant le baptême de Jésus. Je commence au verset 9. Jésus arrive de Nazareth, village de Galilée. Jean le baptise dans le Jourdain. Au moment où Jésus sort de l'eau, il voit le ciel s'ouvrir. Et il voit l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Une voix vient du ciel et lui dit: Tu es mon fils très aimé. C'est toi que j'ai choisi avec joie. Tout de suite après, l'Esprit Saint envoie Jésus dans le désert. Pendant 40 jours, il reste dans le désert et il est tenté par Satan. Jésus est avec les bêtes sauvages, mais les anges le servent. Une deuxième lecture, vécu de baptême, invitation au baptême dans les Actes des Apôtres, qui se trouve dans le Nouveau Testament, deuxième partie de la Bible. Nous lisons au chapitre 2, à partir du verset 37. Il y a une foule réunie et l'apôtre Pierre fait une prédication. Et après avoir entendu ce que Pierre disait, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils disent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, je ne vous dis pas combien ils étaient à se faire baptiser, mais ils étaient plus que 7. Alors nous allons passer au moment où nous désirons nous exprimer dans le chant. J'invite les musiciens à prendre place et les chants seront projetés. Et je vous invite, si vous pouvez, à vous lever pour chanter.
Un chant qui s'est dit, je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Ma vie, mon Dieu, je t'aime.
Juste quelques mots sur d'explication. Pourquoi nous pratiquons le baptême ainsi? Dans la famille protestante de l'Église chrétienne, on retient deux sacrements, signes, et les deux sont centrés sur la personne de Jésus, sa mort et sa résurrection. Il s'agit du repas du Seigneur qui célèbre sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Et deuxième, c'est le baptême. On témoigne en parole avant une profession de foi en Jésus-Christ, mort pour mes péchés, ressuscité comme preuve que Dieu le Père a accepté ce sacrifice pour le péché. On sort de l'eau en symbole de la vie nouvelle dans laquelle nous sommes appelés à marcher. Donc, il s'agit de dire sa foi, mais aussi de la pratiquer. À l'approche de Pâques, nous sommes rappelés donc de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ceux qui vont témoigner vont dire comment eux ils sont arrivés à la conviction que le Christ est vivant, qu'il s'est donné pour eux et qu'il a ouvert devant eux une espérance pour cette vie et au-delà de la mort, prouvé par sa résurrection. Donc, Dieu accorde la foi, et puis nous entrons dans ce que le Christ a accompli et que nous saisissons par la foi, c'est-à-dire le pardon de nos péchés, quoi de plus merveilleux. Et il offre à chacun qui le confesse, le don de l'Esprit Saint pour permettre de marcher au quotidien dans cette vie nouvelle. Donc, notre habitude n'est pas de baptiser les nourrissons, mais d'attendre que la personne elle-même, et vous allez voir, il n'y a pas d'âge pour cela, choisit de faire cette démarche publique. Juste deux versets en conclusion dans l'Épître aux Romains. Nous avons été ensevelis avec Jésus dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous arrivons maintenant au moment où nous allons écouter les témoignages et nous avons invité les personnes qui aujourd'hui se feront baptiser à indiquer des chants s'ils le souhaitent. Vous avez peut-être constaté que les chants choisis jusque-là, c'était plutôt par la jeune génération. Alors, nous allons encore chanter un chant que c'est Rachel qui l'a choisi, Sauve avec puissance, et puis nous allons écouter trois témoignages, Rachel Meyer, Nikita Soba et Mathieu Schmitt. Mais nous allons d'abord chanter le 936, Sauve avec puissance. Je vous invite à vous lever si vous pouvez à nouveau.
Besoin d'être aimé, d'un amour sans Alors, je m'appelle Rachel Meyer, j'ai 16 ans, et je suis la fille de Catherine et Harry, anciens pasteurs de cette église. Et merci. Donc, j'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne. Donc, j'ai connu Dieu depuis toute petite. Et évidemment, enfin, au début, je comprenais pas encore beaucoup. Donc, pour moi, Dieu, c'était seulement le dimanche, puis j'y pensais pas le reste de la semaine. Et après, enfin, j'ai été à l'école du dimanche, j'ai fait des camps aussi pendant les vacances. Et puis, petit à petit, j'ai appris à connaître Dieu, à connaître Jésus. Et puis, c'était comme un processus. Puis, petit à petit, j'ai compris des choses. J'ai compris que Dieu, c'était pas seulement le dimanche, mais qu'on pouvait vraiment avoir une relation avec lui pendant toute la semaine, toute la vie. Et qu'il m'aimait d'un amour inconditionnel et qu'il avait donné son fils pour moi. Et j'ai compris aussi, par rapport aux autres, que chaque personne que je regardais dans la rue, qu'il les aimait aussi. Et du coup, j'essayais de les aimer aussi. Et j'ai compris qu'il avait un plan pour moi, donc que j'étais pas ici pour rien. Et puis aussi que de me faire confiance que quand je prie comme ça, je sais qu'il m'écoute, qu'il m'entend et puis qu'il est là avec moi. Et toutes ces choses, ça a été un peu comme des pierres avec lesquelles j'ai eu une fondation solide, on va dire, pour ma relation avec Jésus. Et puis, toutes ces choses que j'ai apprises, toutes ces choses où je me suis rendu compte, c'était aussi à l'école du dimanche, pendant les camps, au caté, au groupe de jeunes aussi, toutes les soirées du groupe de jeunes, avec les responsables qui nous encouragent énormément, et avec les discussions que j'ai pu avoir avec des amis, et aussi, surtout, en lisant ma Bible, parce que quand je lis ma Bible, je vois toutes les promesses que Dieu il a pour moi. Et du coup, je peux me les approprier et puis le proclamer, par exemple, qu'il est toujours là, qu'il m'aime, qu'il a un plan pour moi et qu'il me redonne de la force. Et tout ça, c'est en lisant la Bible et que j'ai pu le savoir. Et voilà, et donc aujourd'hui, je vais me faire baptiser pour montrer à tout le monde que je crois en lui et qu'il répond à mes prières, qu'il est vraiment vivant et voilà, et vivre au quotidien avec lui.
Bonjour. Alors moi, je m'appelle Nikita Soba et je suis la nièce de Fanny et Tony Uketi. Ça fait 6 ans que je viens ici à l'église et ça fait 6 ans que je participe au culte. Mais contrairement à Rachel, je suis née dans une famille chrétienne, mais contrairement à Rachel, mes parents n'étaient pas pratiquants. Donc du coup, j'allais à l'église, mais pas avec mes parents. J'y allais plutôt avec ma tante, mais pas celle qui est ici, c'est pas celle qui est ici. Notre tante à moi, qui malheureusement est décédée l'année passée. Et c'est avec elle que j'allais à l'église et c'est grâce à elle que j'ai réussi à connaître les bases de la religion chrétienne et que j'ai appris à connaître Dieu, qui il était, ce qu'il faisait dans nos vies et comment est-ce qu'il fallait que je me comporte en quelque sorte avec lui pour apprendre à mieux le connaître. Mais pour moi, Dieu, il était tout simplement un protecteur, quelqu'un qui veillait sur moi ainsi que tout le reste de ma famille. Mais j'avais pas vraiment compris que, en tant que chrétien, on n'était pas uniquement, Dieu n'était pas seulement là pour nous, mais nous aussi, on avait un rôle à jouer. Donc, c'est surtout quand je suis arrivée ici, il y a 6 ans, quand je suis arrivée chez ma tante, que j'ai commencé, que ma vision de Dieu a commencé à changer. J'ai commencé à le voir beaucoup plus comme quelqu'un chez qui je pouvais me confier et pas seulement un protecteur. Parce que je me rappelle la première année quand je suis arrivée, ma tante, elle m'a proposé de commencer à lire la Bible parce que je ne lisais pas vraiment la Bible. Je connaissais les règles en quelque sorte. Je savais qu'il ne fallait pas voler, qu'il ne fallait pas mentir, qu'il fallait se comporter d'une certaine manière. Mais j'avais pas vraiment compris qu'est-ce que c'était mon rôle en tant que chrétienne. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé un peu plus à comprendre ce qu'il fallait que je fasse. Et j'ai remarqué un changement dans ma vie quand j'ai commencé à prendre plus de temps pour Dieu et à persévérer dans la prière, demander à Dieu qu'il puisse m'accorder la paix du cœur, la paix d'esprit et surtout qu'il m'aide à grandir dans la foi. Et c'est en priant que j'ai commencé donc à voir un certain changement dans ma vision des choses surtout, parce que je suis devenue beaucoup plus tolérante devant certaines personnes, devant certaines situations. J'essaye de voir les choses différemment, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que les choses elles sont comme elles sont, pas directement juger. Et aussi j'ai essayé de changer le fait essayer de ne pas être influencée par les autres, par le mal, et essayer plutôt moi d'influencer les autres personnes en faisant du bien, en me comportant en tant que comme chrétienne. Et donc j'ai commencé à remarquer un changement et puis c'est pour ça que je me suis dit j'ai décidé de me faire baptiser, parce que pour moi le baptême c'est quoi, c'est une affirmation de sa foi, c'est une union qu'on a avec Dieu. Et comme il est dit dans Marc chapitre 16 verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc pour se faire baptiser il faut avoir de la foi, et je pense avoir cette foi, donc c'est pour ça que je décide de me faire baptiser.
Bonjour. Donc si ma voix vacille, c'est normal, parce que quand je suis devant plus de 4 personnes, c'est un peu difficile pour moi. Mais oui. Donc je m'appelle Mathieu Schmitt, je suis le fils de Prisca Schmitt et Xavier Schmitt. J'ai 16 ans, donc ça fait 16 ans que je viens ici. Oui, voilà. Donc pour résumer un peu ma vie avec Dieu, donc j'ai toujours été dans cette église, donc, et puis depuis tout petit, mes parents, malgré mais non, je veux pas, ils m'ont quand même traîné jusqu'ici. Mais j'en remercie, parce que c'est grâce à eux que je suis ici, c'est cool. Donc depuis ma chère et tendre enfance, j'ai toujours été à cette église, et puis je savais que Dieu était mort pour moi, et puis qu'il m'aimait d'un amour inconditionnel. C'est ce qu'on apprend, on apprend ça aux enfants à l'école du dimanche. Donc, parallèlement, malgré mes airs d'enfant sage à l'église ici, comme ça, à l'école, ça allait pas du tout, parce que vers mes 12 ans, je suis rentré au cycle. Et puis, j'ai eu des problèmes, je me suis fait insulter, j'avais des surnoms un peu bizarres. Et puis, j'étais battu, je me battais, puis j'étais super désagréable, autant à l'école que chez moi. Oui, j'étais désagréable chez moi. Puis, j'allais tellement mal, j'avais même des fois des envies de suicide, c'était vraiment horrible. Puis finalement, il y a une période de transition où j'ai changé d'école, entre autres. Et puis, j'ai commencé à me dire, ouais, pourquoi pas changer et puis plus battre comme ça. Puis, en même temps, j'ai lu des livres chrétiens, du genre L'œil du tigre, recommandé par ma maman chérie. Et puis, en fait, ça a surtout été accompagné des changements de messages au camp, parce que je faisais beaucoup de camps par année. Puis, en fait, ils nous apprenaient toujours la même chose. Dieu t'aime, aime-le. Et puis, en gros, c'était ça. J'ai fait un camp de la Frée. À Lézin, vers mes 14 ans. Puis là-bas, j'ai rencontré des gens formidables qui aimaient Dieu d'une façon différente que ce que je voyais à l'église. Et puis, cette vision-là, ça m'a beaucoup plu. Puis c'est la première fois là-bas que j'ai senti vraiment la présence de Dieu, puis que j'ai senti qu'il m'aimait. J'ai compris que Dieu, on se fait souvent une idée préconçue, enfin surtout les non-chrétiens, puis ceux qui n'approfondissent pas vraiment leur foi. Avec Dieu, on a eu une bonne image au camp qu'on vient de faire avant. C'était un vieux monsieur avec une longue barbe sur son nuage qui mettait des coches à chaque fois que tu faisais quelque chose de mal, puis qui te regardait comme ça. Puis, ah, c'est pas bien. Puis donc j'ai abandonné cette idée, puis j'ai compris que Dieu c'était un père qui m'aimait de tout son cœur, et puis qu'il avait même donné son fils pour sauver l'humanité du péché. Puis c'est dans une de ces soirées spi, c'est le terme cool pour des spirituels. C'est très jeune de dire ça. Et puis donc j'ai vraiment donné ma vie à cette soirée-là. Et donc depuis ma vie a changé. C'est pas vraiment à moi d'en juger, mais grâce à Dieu j'ai eu l'impression de devenir plus sympathique, plus gentil. Oui, bah quand même. Et puis j'ai commencé aussi à penser aux autres, parce qu'avant je pensais qu'à moi. Et puis mon bonheur il a augmenté fois 1000. J'étais super heureux, j'ai plus eu de tension, je me suis plus battu. Ma confiance en moi a augmenté, à part pour parler devant des gens. Et puis surtout j'ai préféré être seul, préférer la solitude à traîner avec des mauvaises fréquentations. Et donc là j'aime trop Dieu, c'est pour ça que je me fais baptiser d'ailleurs. Ça n'a aucun sens. Et puis, je crois que sans lui, rien de bon n'aurait pu m'arriver. Et puis, là, j'ai trop envie de m'impliquer dans le plus de trucs possible, dans des projets, par exemple, je sais pas, service pack ou des trucs comme ça. Puis, j'ai envie de le servir, et puis de l'aimer toute ma vie, et puis refléter son amour au travers de mes actes.
Le chant de Mathieu. Mon cœur t'appartient.
Bonjour, moi je m'appelle Zéna Battisti, je suis mariée avec Thierry donc. Je viens d'avoir mes 50 ans et je suis la maman de 4 enfants. Alors, je m'approche. En fait, je fais plutôt une lecture parce que je suis pas capable. Donc, je suis venue au monde dans un milieu avec diverses croyances. Hein. Je suis née en Afrique. Donc, les enfants n'étaient pas, dans ma famille, on n'était pas invités à pratiquer de religion. Et dès la préadolescence, je me suis retrouvée donc avec des non-croyants. J'ai grandi avec des règles, mais sans éducation religieuse. De façon furtive, j'ai entendu des histoires sur les miracles de Jésus à l'école primaire. Mon adolescence et ma vie d'adulte ont été douloureuses, entre colère, incompréhension, fuite, éloignement. Et toujours cette sensation de naviguer dans le vide. Hein. Et pourtant, quand ça n'allait vraiment pas, je demandais de l'aide à Dieu, puis il était là. Puis j'oubliais. Et dans cette période d'adolescence, j'idéalisais donc le style de vie qui a été amené par la révolution des années 60, ce qui n'a pas duré parce que je suis quand même une grande romantique. Et c'est dernièrement, il y a 2-3 ans, en acceptant qu'il y avait un néant dans ma vie quand même, suite à tout ce que je vivais, que j'ai décidé de me rapprocher de Dieu. Ce jour-là, une fois qu'avec Thierry, on a décidé de venir voir un culte au temple, nous avons reçu la visite de 2 jeunes missionnaires. Nous étions sur le départ, on devait sortir, et puis quelque chose à la maison nous a retardés, ce qui nous a permis de les croiser devant notre entrée. Dans nos conversations, je leur dis une fois, si Dieu existe, ben, il tarde à trouver le chemin jusqu'à ma porte. Là-dessus, ils m'ont rétorqué que le matin, ils avaient prévu un tout autre itinéraire et qu'ils se sont trouvés sur celui-là, sans trop savoir comment. Puis, à cette époque, on m'a concrètement parlé donc de Jésus-Christ, dont j'aimais déjà les histoires hein, depuis que j'étais enfant. J'ai appris avec eux à m'adresser au Père par Jésus-Christ. En priant, j'ai fait une expérience incroyable. Cette impression d'avoir cette sensation qu'on a une couverture sur soi, autour de soi, pour réchauffer. Ça m'a apporté un tel réconfort, ce moment de prière. Et je me suis beaucoup intéressée ensuite, en lisant la Bible, en allant au cours de théologie, à des ateliers. Et chaque fois que je lisais, je sentais que c'était vrai, je savais qui c'était vrai ce que je lisais. Et je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix, en effet, pour notre salut. Connaître Jésus m'a apporté une grande sérénité et une autre solidité, harmonie dans mon foyer. Je crois que Jésus a pris sur lui le fardeau de ma colère. Aujourd'hui, mon corps ne saigne plus et je n'ai plus de ressentiment. À présent, j'aspire à vivre comme Jésus l'a commandé, avec beaucoup d'amour pour mon prochain, qui qu'il soit. Et penser être le plus possible en contact avec Dieu. Et pour finir, donc, je dis que tous les contacts que j'ai eus avec le monde spirituel, je renonce en public et je n'accepte plus que ce qui m'est apporté par Jésus-Christ.
Bonjour, je m'appelle Thierry Battisti, donc j'ai 50 ans, je suis pédiatre et je suis le mari de Zéna. Alors j'ai toujours vécu à Mérin, mon enfance, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont aimé, qui m'ont apporté la sécurité, mais qui malheureusement m'ont pas donné d'éducation religieuse. Et puis ce manque de spiritualité se faisait avec le recul ressentir, notamment pendant les moments du repas où ça aurait dû être des moments de partage et souvent c'était malheureusement des joutes verbales. J'ai un père assez orgueilleux qui veut souvent avoir raison et souvent les discussions étaient houleuses et ça rendait l'ambiance un peu tendue. Je sais que Zéna en a beaucoup souffert de cette ambiance-là et petit à petit elle a senti le besoin de plus de spiritualité. Et c'est, au début, en tout cas, c'est grâce à l'amour de ma femme que je me suis petit à petit rapproché de l'amour de Dieu. Alors, la première fois que j'ai lu la Bible, c'était à l'armée. parce qu'en tant qu'étudiant en médecine, incorporé dans les troupes sanitaires, on était obligé à l'époque de grader jusqu'à officier, ce qui voulait dire un an et demi d'armée, passer tous les étés à l'armée, c'était vraiment pénible, j'avais vraiment pas envie de ça. Et donc avec de l'indiscipline, des petites bêtises, je pensais pouvoir éviter ça, malheureusement ça n'a pas marché. Mais et en cellule, la seule lecture qu'on avait le droit, c'était la Bible, donc voilà. Et j'ai adoré lire la Bible. Et je me souviens qu'au troisième jour de cellule, le commandant était venu me voir, l'air un peu triste, en me disant, mais ça va, c'est pas trop dur. Et avec un gros sourire, je lui ai dit, non, je passe mes journées à me reposer. En plus, je peux lire la Bible. Il m'avait regardé comme ça, je crois qu'il devait pas être croyant, parce qu'il a pas trop apprécié. Alors c'est vrai que j'ai pas été croyant suite à ça, mais c'était une petite ouverture. Et après, plus tard, une fois marié, avec Zéna, on a accueilli des jeunes hommes qui venaient de France et d'Allemagne, qui venaient pour des rencontre de Thésée, on les a logés, et là j'ai été touché par leur grande foi et leur paix intérieure. Après, par la suite, donc on a rencontré les Mormons, on a eu le plaisir à entendre la parole de Jésus-Christ, mais là c'était une église qui nous correspondait pas trop, elle était assez restrictive, on pouvait pas boire ni thé, ni café, ni du vin, et le culte était parfois un peu trop triste à mon goût. Finalement, donc après, par la suite, donc on a eu le plaisir de connaître Bernard Félix, le pasteur l'ancien pasteur du CEPOM, qui nous a fait le plaisir et l'honneur de venir manger chez nous. On a pu discuter, parler religion. C'était vraiment un grand plaisir de le rencontrer. On a suivi son culte pendant plusieurs années, et là, pour la première fois pendant le culte, j'ai senti la présence du Seigneur. Et donc, par la suite, après le départ de Bernard Félix, on a voulu découvrir l'église évangélique et là, on a vraiment été surpris en bien de cette joie dans le culte, de cette vraiment une église très vivante et ça nous a séduit. Et puis, voilà. Et alors, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, le fait de croire en Dieu? Ça m'a donné plus de sérénité, plus de paix intérieure. Là, j'ai perdu jour pour jour ma tante Marie-Jo il y a 2 semaines. Elle est morte d'une grave maladie après 2 ans de maladie, à l'âge de 63 ans. Je l'aimais beaucoup et je l'aime toujours. Et donc, jusqu'à la dernière minute, elle nous a caché ça. Heureusement, on a pu aller lui dire au revoir juste avant qu'elle meure, et avec ma femme et 2 de mes enfants. Et grâce à Dieu, grâce à mes prières, j'ai pu lui parler avec beaucoup de sérénité, lui dire comme je l'aimais, elle a pu me dire qu'elle m'aimait. Et vraiment, je sais que ce rayon de soleil qui est parti brille maintenant là-haut, et ça m'apporte beaucoup de joie de savoir ça. Donc je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour que nos péchés nous soient pardonnés, qu'il ait ressuscité des morts pour nous prouver qu'il était bien le Fils du Seigneur. Et je veux, par ce baptême, mourir à mes péchés et renaître dans la foi du Christ. Et... Amen.
le déroulement de ma vie. Je suis né le 1er décembre 1933. Et mes parents ne m'ont jamais donné d'instruction ou d'éducation religieuse. Quant à moi, la formation que j'ai eue, militaire, mariage, enfant, etc., m'ont intéressé bien plus que la religion que je ne connaissais pas. Je n'étais pas capable de parler à mes enfants de cela, et je regrette encore maintenant de ne pas l'avoir fait. Je demande pardon à Brigitte et à François, qui ont été ennuyés avec ça. En 2001, j'ai eu un grave accident. Je suis tombé d'un prunier, d'un cerisier, et avec une cerise sur le gâteau, le médecin ou les médecins ont découvert que j'avais un cancer du rein très avancé, et en plus de ça, j'étais tout cassé. J'ai donc commencé à réfléchir sur beaucoup des points que ma vie m'avait donné à faire. Et j'ai commencé à lire la Bible, à prier timidement. Et malgré mes lacunes concernant la Bible, Dieu m'a donné la foi. Et aujourd'hui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour mes péchés, et que je suis pardonné, et qu'il m'aime, et je crois que Jésus est ressuscité. Qu'il est vivant, et qu'il revient pour juger les vivants et les morts. Voilà le résumé de ma vie. Merci.
C'est pour moi une grande joie de pouvoir témoigner de notre amitié. C'est vrai qu'il y a bien des années qu'on se connaît, on en a appris à se connaître au travers de l'Église, mais disons, notre amitié s'est forgée au travers de nos épreuves. C'est vrai que nos deux couples ont connu ce qu'est la maladie, comme Roger l'a dit tout à l'heure. Moi, j'ai aussi eu mon épouse qui a été malade, un peu comme Roger, ma première épouse qui est décédée. Et au travers de nos épreuves, nous avons pu partager, nous avons pu prier ensemble. Et je me souviens de ce temps de vacances que nous avons partagé, soit au sud de la France, ou soit dans nos montagnes, en été, en hiver. Et c'était l'occasion de pouvoir prier ensemble, partager la lecture de la parole. Et pour nous, ça a été la base d'une amitié très solide. Et je crois qu'on se réjouit toujours de pouvoir se retrouver et de parler de cette amitié qui nous est très proche. Et j'aimerais prier pour Roger. Seigneur, je veux te dire ma reconnaissance d'avoir pour ami Roger aussi. Et Seigneur, je te demande de répandre sur lui vraiment toutes les richesses de ta bénédiction, de le remplir de ta paix, de ta joie, de même pour sa compagne, pour sa famille, que tu bénisses cette famille, que tu bénisses ses enfants et ses petits-enfants, et que tous ensemble, nous puissions grandir dans la connaissance de ton amour. Au nom de Jésus. Amen.
Bonjour. Hein. Donc, je vais vous surprendre, mais je suis fils de pasteur. Donc, j'ai toujours vécu dans une famille chrétienne, logiquement, et j'ai toujours connu ça, que ça, au fait. Je suis né en France, j'étais dans une église. Déménagé en Suisse, église. Après Genève, église. Alors, tout le temps, que ça. Mais c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Alors, quand j'étais petit, et après, hein, on est d'accord, j'ai lu pas mal de livres sur les missionnaires, et puis j'étais, waouh, ces gens, ils sont trop cool, c'est un peu Superman, ils font des tas de trucs, et ça m'épatait trop, mais je comprenais pas vraiment le fond, je voyais pas pourquoi ils faisaient ça et comment ils faisaient ça, d'où ils tiraient la force. Même si mes parents me disaient, c'est grâce à Dieu. Alors, quand j'étais adolescent, j'ai commencé à douter de la religion chrétienne, J'ai eu une rébellion. Je voulais que ça soit ma foi, pas que je suive mes parents, parce que mes parents, comme a dit très justement Mathieu, viens à l'église. Et en plus, en étant fils de pasteur, si je venais pas, oulala. Donc, après ça, je voulais m'approprier cette croyance. Mais j'ai fait des mauvaises recherches dans la foi chrétienne. Par exemple, je priais et je faisais « Seigneur, donne-moi des réponses !» Et après, il me répondait et moi, j'étais « Wouhou !» Je n'écoutais pas, au fait. C'était pas une discussion, c'était un monologue avec lui. Enfin, lui, il essayait de me parler. Moi, j'étais « Pouf !» Voilà. Donc, j'ai essayé de rechercher dans d'autres religions pour essayer de découvrir. Voilà. Vous voyez, hein, je sais que Dieu, il était toujours le même, toujours inchangeable, il était le meilleur, etc. Mais j'en étais pas sûr de ça, je voulais savoir si lui c'était le plus grand, si c'était la vraie religion, si j'avais pas tort, parce que j'avais peur de me tromper, parce que, je sais pas, vivre en enfer toute l'éternité, voilà, ça me fait un peu peur, voilà. Donc, avec toutes ces questions, j'étais plutôt embêté. J'en avais marre d'être dans le flou. Je savais, hein, on me l'a répété depuis ma tendre enfance, Dieu t'aime, il est mort pour toi, etc. Mais je ne me l'étais pas approprié, je n'étais pas intégré tout ça. Il y a 2 ans, je suis allé à une conférence en Angleterre, ça s'appelle Keswick, c'est très bien, hein, si vous y allez, c'est vraiment chouette. Et on est allé dans des ateliers qui nous parlaient de la base de la religion chrétienne. On pouvait choisir où on allait, et je suis allé dans celui-ci parce que je me posais plein de questions. Donc on a dit à l'animateur pourquoi on allait dans cet atelier. Et j'ai dit, voilà, je ne suis pas très sûr de ma foi, je cherche des réponses, je ne cherche pas des questions, mais je cherche des réponses. Et donc, après, avec une fille qui était dans le même cas que moi, je suis allé avec un pasteur et on a discuté entre 6 yeux de ce que c'était la religion chrétienne. Et il était très sympa, ce pasteur, étonnamment. Hein? Alors, donc j'ai expliqué pourquoi je croyais. Et moi, je croyais qu'il fallait faire des tas de choses pour mériter le paradis. Genre, aller à l'église, être gentil tout le temps, etc. Plein de trucs. Et je voulais pas accepter juste le fait que Dieu, il est mort pour moi, pour me sauver. Je pensais qu'il fallait le mériter, vous voyez. Combattre ça avec une épée, je sais pas. Plein de choses. Mais je voulais pas juste accepter. C'était trop facile. Il y a mon honneur qui disait, non, non, c'est trop simple. Et le pasteur, donc, il a dit, mais c'est complètement stupide. Jésus, il est mort pour toi, et que tu crois que tu as besoin de faire quelque chose, il est triste. Et puis ça m'a un peu chamboulé. J'ai rendu Jésus triste, c'est quand même une figure de l'histoire. Et donc, ça voudrait dire qu'il est mort pour rien. Donc ça m'a fait un petit peu réfléchir, comme je l'ai dit, et j'ai décidé de plus approfondir ma connaissance de lui en lisant ma Bible. Donc, pour découvrir la Bible, j'ai pris une coach, Aurélie, mais elle n'était pas assez sévère. Donc, on n'a pas tellement fait ça quand on était censé lire la Bible, on a plutôt discuté qu'autre chose. Mais une fois, on a lu ensemble un livre de la Bible, et c'était vraiment vachement édifiant, donc je te remercie, hein, c'était cool. Et j'ai aussi passé plus de temps pour écouter le Seigneur, pour être plus assidu au culte, plus écouté, pas juste attendre que ça passe, etc. Et voilà, donc au bout d'un moment, il y a mon père, l'année passée déjà, « Fils, tu veux te baptiser ?»« Ah, non !» Et là, cette année, je suis allé vers mon papa et j'ai fait « Père, je vais me baptiser ?» Et il a fait « Ah, ouais !» Donc, depuis que j'ai pris cette décision, j'ai pas vu trop de grands changements parce que j'ai toujours eu une famille équilibrée, etc. C'était génial, voilà. Donc, j'ai plus appris que Dieu est un amour, Dieu est un Dieu d'amour, pardon. Il est juste et ça me donne juste tellement envie de plus le connaître. Il est aussi sur quelqu'un sur qui je peux tout le temps m'appuyer, je peux tout le temps lui parler, un peu partout où je vais, quand je me balade, quand je suis dans le tram. Les gens pensent que c'est un peu bizarre des fois parce que je murmure. Voilà. Et j'ai toujours plus envie de le découvrir parce que c'est un cheminement de foi. On le fait pas, paf, c'est bon, je le connais. C'est en lisant la Bible, on découvre toujours comme ça. Vous pouvez demander à mon père, ça fait 20 ans qu'il lit tout le temps la Bible et puis il découvre toujours des choses. Et j'aimerais suivre ces principes, enfin essayer de les suivre parce que c'est impossible pour nous, mais de plus en plus le suivre lui. Et je crois en Dieu car au moment du jugement, c'est comme ça. Je pense que même quoi que je fasse, Dieu, le mec barbu là qui coche, eh ben, il verra toutes les fautes que j'ai faites. Moi, je trouve que c'est vrai. Mais à ce moment-là, il y a Jésus qui va débarquer devant, il va se mettre devant nous, il va faire l'avocat, et Dieu, il verra que la vie parfaite de Jésus à travers nous. Donc, c'est pour ça que je vais me faire baptiser, parce que je crois que Dieu, il est venu sur terre pour nous sauver, nous. Et... Et je veux tout dire à tout le monde que j'appartiens à Christ et c'est la raison pour laquelle je vais me baptiser aujourd'hui. Voilà.
Nous arrivons au moment des baptêmes. Je demande les personnes qui sont ici devant de ne pas vous lever pour permettre aux personnes qui sont plus en arrière de pouvoir voir. Donc, n'hésitez pas à vous lever tout derrière. Quand c'est le moment, si vous êtes là en équipe de soutien pour l'un ou l'autre, il ne faut pas hésiter de vous approcher, de vous mettre sur l'estrade là où vous pouvez bien voir. Donc nous allons continuer dans le même ordre des témoignages. Donc après les trois premiers baptisés, nous allons prier pour eux et puis nous procéderons aux quatre baptêmes suivants. Donc c'est à Rachel en premier et elle sera accompagnée par Harry.
Alors, de la part de l'Église, alors le paquet, tu le récupéreras après. Je te lis simplement ce verset qu'on te laisse en souvenir de cette journée, dans Psaume 32, verset 8. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. »
Tu as témoigné publiquement de ta foi en Jésus-Christ, de ce qu'il est mort pour tes péchés. Tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts, c'est bien ça? Alors, suite à ta profession de foi, nous allons te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Nikita, alors nous te laissons aussi ce verset. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. C'est dans 2 Timothée.
Nikita, ce matin, tu as rendu témoignage à ta foi en Jésus-Christ et tu as professé qu'il est ton sauveur et ton Seigneur. C'est bien ça.
Matthieu, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira.
Matthieu, suite à ton témoignage de foi en Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, nous désirons te baptiser. Donc tu as professé ta foi en lui, c'est bien ça.
Oui. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Voilà, nous voulons prier pour ces premiers baptisés. Seigneur notre Dieu, il y a de la joie dans nos cœurs, comme nous savons qu'il y a de la joie dans le ciel pour l'engagement de nos amis qui se sont fait baptiser à l'instant. Nous te prions pour que tu puisses continuer à fortifier leur foi, Seigneur. Nous invoquons sur eux le don de ton Esprit Saint, afin qu'ils puissent mettre un feu dans leur âme. Qu'ils puissent, en toutes circonstances, en toute occasion, continuer à te chercher, toi qui mets la paix et la joie dans les cœurs. Seigneur, nous te remercions pour cette promesse que tu leur fais, que leur vie n'est pas stérile, que leur vie va porter du fruit, un fruit jusque dans l'éternité, parce que tu es avec eux, parce que tu agis au travers d'eux, parce que tu les bénis, parce que tu marches avec eux. Conduis-les, Seigneur, continue à les bénir, nous te les apportons dans le nom de Jésus. Amen.
Alors j'invite Zéna et Thierry.
Alors pour toi, Zéna, ce verset du Cantique des Cantiques. L'hiver est passé et les pluies ont cessé. Leur saison est finie. On voit les fleurs éclore à travers le pays et le temps de chanter est revenu.
Zéna, tu as rendu témoignage à ta foi en Jésus-Christ. Tu as renoncé à tout autre chemin et tu as déclaré que Jésus-Christ est ton sauveur et ton Seigneur. C'est bien ça que tu désires déclarer par le baptême. Oui.
Thierry, ce verset du psaume 46, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. »
Thierry, tu nous as décrit ton cheminement et aujourd'hui, tu confesses devant la communauté réunie, devant la famille, les amis, que tu choisis de suivre Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. C'est bien ça que tu désires signaler. Oui. Plusieurs d'entre nous savent que pour Roger, l'idée de se faire baptiser devant tout le monde n'allait pas de soi. Alors ce matin, nous saluons ton courage, Roger, et nous sommes avec toi. C'est Armand qui va aussi dire quelques mots, qui va prier après. Donc, Roger, tu as rendu témoignage de ton cheminement et ta décision de recevoir le Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. C'est bien ça que tu as voulu dire.
Roger, ce verset qu'on te laisse de 1 Timothée 6, les versets 11 et 12. Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins.
Donc vous avez bien compris ces pointes. Philippe, ce matin, tu as choisi de rendre témoignage publiquement de ton choix d'accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. C'est bien ça.
Et alors là, c'est ton autre papa qui te dit ça. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ.
Seigneur, nous exprimons tous aussi par nos applaudissements notre joie et notre reconnaissance. Te louons pour le cheminement de Zéna, de Thierry, de Philippe et de Roger, tout près de moi. Seigneur, ces cheminements étaient très différents, mais nous te rendons grâce parce que tu as été présent, tu t'es révélé d'une manière très différente aux uns aux autres. Et maintenant, c'est notre privilège en tant que communauté de te les remettre, d'invoquer sur eux ta bénédiction, ta paix, les forces pour continuer à marcher dans ta présence. Seigneur, nous te les remettons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Et nous chantons ensemble le chant que Roger a choisi. Quelle joie, Seigneur, d'entendre ton appel, ton invitation d'entrer dans ta famille. Nous te bénissons de ce que tu es venu nous permettre de connaître le Père tel qu'il est, en te voyant toi, toi qui allais de lieu, en faisant le bien, toi dont la vie était remplie de bienveillance. Nous te louons de ce que aujourd'hui, nous croyons qu'il y a la célébration aussi dans le ciel, suite à ces témoignages de vie donnés à toi, que tu as rachetés. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce temps que nous vivons, pour tout ce que tu as fait, tu feras pour nous. Nous prions en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Profiter de ce moment, simplement dès notre joie de retrouver Werner et Denise au milieu de nous ce matin. Et j'invite Denise pour la méditation. Denise me rappelle aussi qu'il y a Bernard qui est présent, qu'on n'a pas vu, mais bienvenue également Bernard.
Jésus, quand il s'est fait baptiser, il a vu le ciel s'ouvrir et il a entendu une voix. Je ne sais pas, vous qui avez été baptisés aujourd'hui et peut-être il y a quelques années, si vous avez aussi vu le ciel s'ouvrir. Je pense que c'est une façon de parler de notre vécu. Parfois, on a l'impression, dans un moment de communion très proche de Dieu, que le ciel s'ouvre et qu'on reçoit quelque chose dans notre cœur. et ce que nous avons entendu, j'aimerais le dire, c'est vrai, vous l'avez vécu pour de vrai. Jésus, quand il est sorti des eaux du baptême, a reçu une parole très forte, une parole qui lui disait qui il était, le Fils très aimé de Dieu, une parole qui lui disait qui était à l'origine de son existence, de sa vie et de ce qu'il allait entreprendre. C'est Dieu. C'est toi que j'ai choisi avec joie. Et j'ai cherché, en préparant, je cherchais un mot, parce que je sentais quelque chose, que ces paroles faisaient quelque chose à Jésus. Et Zéna l'a tellement bien expliqué, elle a dit, c'était comme une couverture qui me tenait chaud, j'étais bien. Et je pense que pour Jésus, ces paroles ont été tout au long de son ministère, quand il a eu à affronter ce qu'il a affronté. Il s'est souvenu de ces paroles et c'était comme une couverture autour de lui. Merci Zéna. Mais tout de suite après, ces paroles, cette parole reçue a été très malmenée. Vous avez remarqué, dans Marc, c'est très très concis. Il est conduit dans le désert par le Saint-Esprit pendant 40 jours et là il est tenté. Il est conduit par le Saint-Esprit, donc les épreuves et les difficultés, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le plan de Dieu. Ça ne veut pas dire non plus que Dieu est contre nous, ou que Dieu nous punit, ou que Dieu nous a abandonnés. On est peut-être tout à fait dans le plan de Dieu et dans la difficulté. Il dit aussi qu'il y a des bêtes sauvages avec lui. Et là, moi, j'y ai vu là, que Jésus, il n'avait pas vécu un très bon quart d'heure. Il n'avait pas passé un bon quart d'heure du tout. Je ne sais pas si, comment vous vous imaginez autour, avec des bêtes sauvages autour de vous, mais ce n'est pas très drôle. Mais il n'était pas seul. Il y avait des anges avec lui. Et ces anges sont aussi avec nous. Matthieu et Luc sont beaucoup plus riches dans les détails. Hein. Ils nous disent qu'après ces 40 jours, pendant ces 40 jours, Jésus n'a pas mangé et qu'après, il avait faim. Et c'est à ce moment-là que Satan s'est présenté pour le tenter. Ils nous disent aussi qu'il y a eu 3 tentations. Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Il a faim. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas du toit du temple. Tu ne t'écraseras pas par terre, parce que les anges de Dieu viendront pour te retenir. Tu ne mourras pas, tu n'as pas besoin d'avoir peur de la mort. Et 3e tentation, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai le pouvoir et la gloire sur tous les royaumes de la terre. Et ça, c'est la toute-puissance. Dans, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les 2 premières tentations commencent par « si tu es le Fils de Dieu ». Elles touchent à cette parole qu'il vient de recevoir. Et Satan suggère que cette parole devrait être accompagnée de preuves, reposées sur des faits, et que cette parole devrait être accompagnée par le fait que celui qui est le Fils de Dieu n'est plus soumis aux conditions de l'humanité, il n'est plus soumis aux épreuves, aux difficultés, aux tourments, aux doutes, à tout ce qui nous habite. Et Jésus refuse cela. Il refuse que la parole de Dieu repose sur des faits. Ce n'est pas parce qu'il fait des miracles qu'il est fils de Dieu, c'est parce que Dieu le lui a dit. Et par son refus aussi, il refuse d'être autre chose qu'un homme. Et il refuse d'être autre chose que ce que nous sommes. Et il accepte de vivre tout ce que nous avons à vivre. Quand nous sommes dans la difficulté, nous savons que nous avons avec quelqu'un qui sait par où nous passons. Et qui nous soutient, vraiment. La 3e tentation, je dis qu'elle s'attaque à la relation qui existe entre Jésus et Dieu, à cette couverture. Puisque le diable lui propose de se prosterner devant lui, c'est la cassure du lien. Et puis il lui donne le pouvoir sur tous les royaumes. C'est une invitation quelque part à prendre la place de Dieu. C'est Dieu qui est le Tout-Puissant, c'est Dieu qui a la Toute-Puissance. Mais Jésus, Là aussi, il refuse de sortir de la couverture. Il reste dans cette place qui est la sienne. Il n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Il reste à cette place qui lui garantit la couverture où il est bien, où il se sent en sécurité. Alors je me dis, moi, dans ma vie, j'ai dû reconnaître en préparant cette méditation que je croyais et qu'il y avait derrière cette foi une espèce d'illusion, c'est qu'à force de cheminer, un jour, je n'aurai plus peur. La peur est un sentiment qui m'habite toujours, très souvent, et que j'aime pas. Et je me suis dit, mais si Jésus, qui était le Fils de Dieu, a accepté de vivre ces choses-là, moi je dois aussi accepter qu'elles font partie de ma vie. Alors ce matin, je nous invite à cesser d'avoir l'illusion qu'être chrétien, c'est ne plus avoir de difficultés, c'est ne plus avoir, c'est se regarder tel qu'on est, avec ce qui est bon et moins bon. Et peut-être, dans les eaux du baptême, c'est en regarder, laisser au fond les illusions sur nous-mêmes, nous voir tel qu'on est, avec le bon, le mauvais, le très mauvais, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, laisser Dieu regarder ces choses-là, aller dans l'eau, les laisser au fond, et quand on sort de l'eau, voir Dieu devant nous, qui nous tend les bras et qui nous dit « Tu es mon fils, ma fille, très aimée. »
Nous passons maintenant au partage du pain et du vin.
C'est vrai que c'est un peu l'heure de manger. Et en attendant l'apéro, on veut partager encore ce repas ensemble, et particulièrement avec les baptisés. Parce que leur baptême et cette sainte scène qu'on prend ensemble sont des symboles de la mort du Christ. Pas une mort parmi d'autres, une mort en vain, mais quelqu'un qui est mort pour nous, pour moi. Parce qu'immanquablement on fait mal, immanquablement on fait du mal, et que tous nos manquements, toutes nos erreurs auraient dû nous coûter, auraient dû entraîner différentes choses, et bien nous en avons été libérés. Nous sommes graciés. Nos baptisés, convaincus par ce Dieu qui s'offre en sacrifice à notre place, ont vécu cette immersion, symbole de notre mort avec Christ, de notre résurrection avec lui pour une vie nouvelle, symbole de notre naissance en tant que chrétiens. Et ensemble, communauté, et avec nos jeunes baptisés, nous voulons partager ce pain, ce vin, ce témoignage de la mort du Christ, comme il nous invite à le faire. Et lors du repas, de son dernier repas avec ses disciples, Jésus prit du pain, prononça une prière de reconnaissance, et il le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » C'était un repas de fête, avec différents éléments, différents temps, avec toute une liturgie. Ensuite, il prit une coupe, prononça une prière de reconnaissance et la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'Alliance. Versez pour vous, versez pour nous, afin que nos péchés soient pardonnés. » Nous voulons ensemble prier, partager ce pain, ce vin, en nous souvenant, comme Paul le rappelle, que toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps, le sang du Seigneur. vous invite à prier.
Ce matin, Seigneur, nous célébrons ces deux signes qui rappellent ta mort et ta résurrection. Ta mort pour payer le prix de notre séparation avec le Père. Ta résurrection qui prouvait que le don de ta vie était suffisamment pour nous racheter de toutes nos fautes et pour permettre que nous sommes maintenant dans la paix avec Dieu. Nous prenons ce pain et ce vin pour signifier que nous reconnaissons que tu es mort pour nos péchés et que tu es ressuscité pour qu'on soit déclaré juste devant Dieu le Père en ton nom. Amen.
Alors nous allons passer, mais c'est les baptisés qui vont passer, je les invite à venir déjà, avec le pain, les petits plateaux avec le vin. Au centre, il y a les petits gobelets avec du jus de raisin, et sur l'extérieur, c'est du vin. Il y a également deux coupes, il faudra faire signe pour la coupe. Si pendant ce temps, vous voulez vous exprimer par la prière, vous êtes libre, tout à fait libre de le faire, en tout cas dans votre cœur et à haute voix également. Seigneur, merci de ce temps de communion, de partage. Merci parce que tu es un Dieu qui nourrit, qui agit dans nos vies, qui nous redonne des forces. Et merci parce que, en faisant ces gestes, nous nous souvenons aussi, nous manifestons notre espérance de bientôt vivre ça avec toi, dans ton royaume. Que tu bénisses chacun. Amen. Amen.
Nous arrivons à la conclusion de cette cérémonie de baptême. J'aimerais conclure en demandant les musiciens de nous conduire dans la dernière strophe d'À toi la gloire, et après quoi je lirai une bénédiction, prononcerai une bénédiction que nous trouvons dans la Bible. Donc je propose que nous terminions en se levant, en chantant encore une fois la dernière strophe d'À toi la gloire, et que vous restez debout pour recevoir la bénédiction du Seigneur. C'est le verset qui se trouve sur chacune des cartes des baptisés. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Que l'Éternel vous accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.